Un seul sujet au menu de ce débat, c'est la situation sécuritaire au Nord Kivu. Le général autoproclamé du M23, Makenga Sultanu, s'est rendu aux mains des autorités ougandaises depuis 3 jours avec 1600 de ses hommes. L'information a été confirmée par les porte-parole du gouvernement ougandais. Et cela intervient après que ce mouvement, le M23, ait décidé de mettre fin à sa rébellion au Nord Kivu. De son côté, le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, estime qu'il n'y aura pas d'accord à signer, mais plutôt une déclaration pour conclure le pourparlers de Kampala. Après la victoire de FRDC sur le M23, la société civile du Nord Kivu, les partis politiques Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, et le Conseil provincial de la jeunesse pensent que l'armée doit rester vigilante pour contrecarrer toute action de nature à déstabiliser la région de Rutshuru. Nous avons dans cette émission Louis-Dor Balekelaï, l'éditeur du journal La Voix du Peuple et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTC en sigle. Bonsoir Louis-Dor Balekelaï.
Bonsoir, confrère, merci.
Giscard Koussema, il est directeur général de la radio-télévision Canal Futur. Bonsoir Giscard Koussema.
Bonsoir Guy et bonsoir à tous.
Et Magloire Paloukou, directeur général de la radio Kivu One, émettant depuis Goma au Nord Kivu, mais là il intervient depuis Kampala en Ouganda. Bonsoir Magloire Paloukou.
Bonsoir Guy, bonsoir Lidor, bonsoir Giscard et salut à tous les auditeurs internautes de Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. La fin de la rébellion du M23, le gouvernement n'attend pas conclure un accord avec le M23, mais plutôt une déclaration. Les défis sont énormes après la défaite du M23. On écoute comment la presse a analysé cette actualité à travers cette revue de presse que nous présente Alain Irung.
Bonsoir. L'annonce de la fin du mouvement rebelle du M23 a défrayé la chronique et chacun des tabloïds quinois y est allé de son pan de commentaires. Le quotidien Forum des As révèle qu'avec la reconquête de Runyoni et Changzhou mardi dernier, M23, enfin, tout est fini. La prospérité n'y va guère par le dos de la cuillère et annonce la mort confirmée du M23. En outre, la consoeur publie la déclaration conjointe des envoyés spéciaux pour les Grands Lacs suite à l'annonce de la fin de la rébellion du M23. Pour sa part, le potentiel se demande si c'est le champ du cygne pour le M23, car c'est désormais la descente aux enfers pour ces rebelles. Toutefois, le quotidien estime que le M23 doit répondre de ses crimes après sa capitulation. Aussi, le journal L'Avenir n'est-il pas en reste en lançant « Fini le feuilleton M23, victoire totale » et bientôt d'autres groupes armés éradiqués. Sur la même lancée, le journal Forum des As rapporte que l'exécutif congolais est déterminé à pacifier totalement l'est de la RDC. L'Avenir reprend les propos du porte-parole du gouvernement Lambert Mende lors d'un point de presse tenu mardi dernier dans son cabinet de travail. C'est une victoire indéniable que les FRDC viennent de remporter sur les éléments du M23 et leurs mentors. Il ne viendra à l'idée d'aucun citoyen congolais normalement constitué de bouder sa satisfaction devant cet exploit après tant d'années d'épisodes d'humiliation qui ont failli briser la cohésion de la nation. Forum des As nous apprend que Lambert Mende a annoncé par la même occasion que la fin de l'aventure du M23 ouvre une nouvelle page, celle de la guerre contre les autres groupes armés œuvrant sur le sol congolais. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, a pris part mercredi 6 novembre au point de presse hebdomadaire des Nations Unies, annonce la tempête des tropiques. À cette occasion, le chef de la MONUSCO a proclamé la fin de la guerre au Nord Kivu avec la défaite des rebelles du M23. Martin Kobler se réjouit de la fin de cette guerre qu'il a qualifiée d'atroce. Malgré la victoire militaire des FRDC, il a appelé les deux parties à finaliser un accord de paix à Kampala. Terminons par cette réaction de l'ONG Human Rights Watch qui est montée au créneau pour demander que soient traduits en justice les leaders du M23 coupables de violations des droits de l'homme, informe l'Observateur. Cette organisation internationale de défense des droits de l'homme souhaite que les leaders du M23 coupables des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité au Nord Kivu soient arrêtés et traduits en justice.
Merci Alain Irung, Louis-Dor Balekelaï. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Les Pouvoirs du Peuple et non La Voix du Peuple. Merci. Vous êtes aussi journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Et l'actualité, c'est aussi la mort de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, envoyés spéciaux de la radio France Internationale au Mali. Ils ont été assassinés samedi dernier après avoir été kidnappés à Kidal dans le nord de ce pays.
Bien, merci confrère. Je voudrais, à l'instar de tous les confrères du monde entier, condamner ces assassinats crapuleux qui ont emporté nos deux confrères français, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, donc à Kidal, au Mali. Et ceci nous interpelle, nous qui avons la mission d'informer et de former, de prendre justement la mesure des risques que comporte ce métier. Et c'est pour dire que notre vie est une vie entièrement consacrée à la cause de la vérité. Et pour la vérité, nous serons toujours et déjà prêts à donner le meilleur de nous-mêmes afin que les populations, nos peuples, nos États, notre société soient suffisamment informés.
Et Giscard Poussema, directeur général de la radio-télévision Canal Futur, une fois de plus, la presse est en délai avec la disparition de Ghislaine Dupont et Claude Verlon s'est chevronné des médias.
Oui, je voudrais joindre ma modeste voix à celle de tous les confrères du monde entier pour condamner tout d'abord ces actes ignobles. Mais je voudrais aussi saluer la mémoire des Claude et de Ghislaine qui sont de fins lignées. Leur expertise n'est pas à mettre en doute, mais surtout ce sont des modèles d'un genre assez particulier. Ghislaine, on le sait, allait au-delà de faits, elle aimait la précision, l'anticipation, mais surtout des investigations bien profondes, et cela lui a valu les attaques de partout, au point que dans des régimes qui sont parfois répressifs, elle était persona non grata, comme le cas ici chez nous. Je voudrais donc saluer la perte, une grande perte pour la corporation, pour notre profession, et parce que ces genres de journalistes sont rares, ceux qui sont toujours à l'affût de l'actualité, qui ne se limitent pas au journalisme protocolaire, mais vont au-delà des faits, ils vont dans les contextes, ils accompagnent des événements, et ça c'est quelque chose de particulier. Je crois qu'il nous faudra encore du temps pour avoir de journalistes de cette race-là.
Giscard Poussema, vous êtes directeur général de la radio télévision Canal Futur. À l'issue des concertations nationales, il a été recommandé notamment l'ouverture des médias qui avaient été suspendus. Et parmi ces médias, il y a votre média qui est la radio-télévision Canal Futur. Un mois après la fin de ces concertations nationales, où en est-on? Est-ce que le signal de Canal Futur a été rétabli ou pas?
Permettez-moi tout d'abord de saluer le courage de concertateurs. Ils étaient 900 issus des institutions et même de l'arrière-pays qui finalement ont fini par nous donner raison dans un dossier qui défrait la chronique depuis 2 ans. Nous avions pensé que la clôture des concertations nationales sonnait l'épilogue d'une affaire qui défrait la chronique depuis bientôt 2 ans. Nous sommes réjouis de constater que les 900 concertateurs ont à l'unanimité reconnu que la fermeture de Canal Futur était non seulement injuste et surtout était une entrave à la cohésion nationale. Vous savez que la réouverture de Canal Futur faisait partie des 10 recommandations pertinentes, mais hélas aujourd'hui, près de 2 mois après, rien n'a été fait, et nous pensons que si cela fait partie des lenteurs administratives, on peut comprendre, mais si c'est encore une fois une volonté manifeste de maintenir sous silence ces médias, je crois que l'opinion nationale et internationale qui suit de près ces dossiers constate avec nous ces manques de volonté politique. Encore une fois, ça fait partie des faits qui montrent qu'il n'y a pas de cohésion, que la liberté de la presse dans notre pays n'est pas garantie, parce que dans quelques jours, nous allons fêter les 2 ans nets de la fermeture de Canal Futur. Ce fut le 28 novembre et c'est sans précédent dans notre pays, en Afrique et même dans le monde.
Merci Magloire Paloukou, vous êtes directeur général de la radio Kivu One, émettant depuis Goma au nord Kivu, mais là vous intervenez depuis Kampala en Ouganda. Quelle a été votre réaction lorsque vous avez appris cette nouvelle de l'assassinat de Ghislaine Dupont et Claude Verlon?
Dis, je suis moi-même de RFI, donc je suis correspondant Kiswahili de RFI pour le Nord Kivu. Donc j'ai travaillé en plus avec Justin Dupont, on a couvert certains événements ensemble, par exemple la mort de Moïse Laurent-Désiré Kabila, l'avancée de Laurent Kunda également dans le massif Faké. J'ai toujours reproché à Justin Dupont d'aller au-delà de ce qu'il a dit jusqu'à Kosema tout à l'heure, aller au-delà du du protocolaire et d'aller toucher presque l'intouchable, d'aller mettre son nez dans ce qui est presque caché, qui est limite d'ailleurs du journalisme. C'est ce qui a coûté. En plus là, moi quand j'ai appris sa mort, j'ai eu peur pour moi-même. Nous qui sommes à l'est du Congo, avec la guerre, nous allons tout le temps au front, nous allons poser des questions parfois impossibles aux rebelles et révéler les fausses communes, révéler des exactions, même côté FRDC. Donc ça m'a inspiré, je me suis dit mais quel courage elle avait, malgré les accusations que portait la RDC contre elle, elle est restée quand même l'icône partout en Afrique. Mais plutôt moi j'étais fan de Claude Vernon, sa voix, ses anecdotes, tout ce qui était un tout petit peu la frise sur le gâteau du journalisme. C'est des pertes immenses pour notre famille de RFI. Et nous l'avons regretté pendant toute la semaine, on continue toujours. Il y a un bandeau noir d'ailleurs sur l'emblème de RFI. Ça a touché, je suis de la famille, quoi.
Merci, nous abordons notre thème de ce soir, situation sécuritaire au Nord Kivu. Le général autoproclamé du M23, Makenga Sultani, s'est rendu aux mains des autorités ougandaises depuis 3 jours avec 1600 de ses hommes. L'information a été confirmée par les porte-parole du gouvernement ougandais et cela intervient après que son mouvement, le M23, ait décidé de mettre fin à sa rébellion au Nord Kivu. De son côté, le gouvernement congolais, par la bouche de son porte-parole, estime qu'il n'y aura pas d'accord à signer, mais plutôt une déclaration pour conclure le pourparler de Kampala. Après la victoire des FRDC sur l'M23, que va-t-il se passer à Kampala? Pour le gouvernement congolais, il n'y aura pas d'accord à signer, mais plutôt une déclaration pour conclure ces négociations. Son porte-parole, Lambert Mende, qui s'est ainsi exprimé mardi dernier à la presse ici à Kinshasa, estime que la rébellion s'étant autodissoute par sa déclaration des fins de guerre, logiquement, le gouvernement n'a plus d'interlocuteur en face de lui pour se pourparler. Lambert Mende, dans ses propos recueillis par Innocent Olinga.
À Kampala, il y aura une déclaration de Kampala et pas un accord entre le gouvernement et le M23. Un accord ne peut se justifier étymologiquement que si il y a deux réalités. Il y a le gouvernement de la RDC et une force négative, fut-elle, mais un groupe armé opérationnel. Or, vous avez tous suivi le communiqué de M. Bissimwa, le M23 a déclaré sa fin comme groupe armé. Donc il n'y a pas lieu de venir distordre cette réalité en recréant le M23 pour signer avec lui un accord. Et en tout état de cause, nous ne sommes jamais allés à Kampala pour signer un accord avec qui que ce soit. Nous vous le disions toujours, vous sembliez un peu écouter cela avec un sourire mi-figue, mi-raisin. Maintenant, vous comprenez, nous ne sommes pas allés pour négocier ou signer un accord. On nous a dit, venez à Kampala, écoutez vos compatriotes et répondez-leur. Nous les avons écoutés et notre réponse se trouvera dans la déclaration que nous allons signer.
La MONUSCO, qui a engagé ses forces aux côtés des FRDC lors des combats à Tchanzo et Runyoni, salue la décision du M23 de mettre un terme à sa rébellion et de poursuivre par des moyens purement politiques la recherche des solutions aux causes profondes qui ont présidé à sa création. Dans une interview accordée mardi dernier à Radio Okapi, le représentant du secrétaire général des Nations Unies en RDC et chef de la MONUSCO s'est dit aussi satisfait d'apprendre que le gouvernement congolais a pris acte de la fin de la rébellion. Martin Kobler plaide à cet effet pour la restauration rapide de l'autorité de l'État dans tous les territoires libérés. On écoute le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, au micro de Michel Kifindangoï.
J'étais à Pretoria du sommet, mais j'étais aussi à Kampala avec les délégations de la RDC et le M23. Et je suis très très satisfait qu'on a maintenant cette déclaration qui a été consenti à Kampala, et aussi la réaction du gouvernement de la RDC d'accepter la fin de la rébellion. J'ai aussi entendu que le porte-parole du gouvernement de la RDC, il a dit il faut maintenant rentrer à Kampala pour conclure l'accord de Kampala qui règle toutes ces choses qui ont été discutées depuis 10 mois.
Pensez-vous qu'il n'y a plus de menaces au moment où les éléments du M23 ne sont pas encore désarmés?
Voilà, je crois que c'est maintenant très important de restituer l'autorité de l'État. Je crois que si le gouvernement, avec le soutien de la MONUSCO, si nous tous réussissons d'établir l'autorité de l'État, la menace est réduite.
Ludor Robalekelaï, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Le M23 met fin à sa rébellion et son chef militaire s'est rend en Ouganda avec 1600 de ses hommes. Votre analyse.
Merci confrère, tout en réitérant mon hommage vibrant tout à l'heure à l'armée nationale congolaise pour avoir redonné la dignité au peuple congolais. Je voudrais indiquer tout de suite que la reddition de Sultani Makenga et le refuge, je voulais dire, l'exil qu'il a trouvé en Ouganda montre bien de quel côté venait la guerre ou l'agression contre la République démocratique du Congo. Et au regard de tout ce que ce mouvement, cette force négative a subi comme revers au terme de 10 jours de combats intenses dans les Rutshuru et dans le Nirangongo, on se demande les 1600 hommes qui auraient accompagné Sultani en Ouganda, d'où seraient-ils venus? C'est là toute la question et nous aimerions que la communauté internationale puisse poursuivre sa logique jusqu'au bout pour que l'identité réelle de ces hommes qui ont accompagné Sultani Makenga soit révélée à la face du monde et qu'on sache effectivement qui ils étaient. Mais je crois que la plupart d'observateurs estiment que ce sont des éléments qui ont été recrutés dans des pays voisins, notamment le Rwanda, pour pouvoir agresser la République démocratique du Congo, à moins que les enquêtes nous prouvent le contraire.
Mais comment vous expliquez la décision du M23 de pouvoir mettre fin à sa rébellion, quand on sait que c'est un mouvement qui était toujours puissant, et on a découvert l'armada à Runyoni et à Tianzou, oui. C'était une forteresse, ils avaient de quoi résister pendant plusieurs mois. Et comment vous expliquez que tout d'un coup comme ça, ils décident de mettre fin à leur rébellion?
Pour plusieurs raisons, entre autres le fait que le M23 en lui-même n'était pas une puissance comme telle, mais c'était, comment dirais-je, un arbre qui cachait la forêt. Derrière le M23, il y avait une main qui secouait la marmite. Cette main est connue de tout le monde, c'est le Rwanda. Et vous savez que le rapport de force dans la région des Grands Lacs a tellement changé que ceux qui, à un certain moment, n'étaient pas convaincus de l'implication du Rwanda dans le conflit armé en République démocratique du Congo ont obtenu des preuves des experts des Nations Unies, notamment les États-Unis d'Amérique, qui ont fait de fortes pressions sur le régime de Kigali pour pouvoir lâcher donc le M23, ce qui fait que bien que disposant encore d'une forteresse, vous l'avez dit, à Tianzou et dans d'autres collines où il s'est caché, le M23 a dû capituler et se rendre une partie au Rwanda, une partie en Ouganda. C'est pour dire que, en tout cas, l'option diplomatique et militaire et même l'option politique qui était préconisée en République démocratique du Congo par le chef de l'État Joseph Kabila a pu tourner à merveille, si bien qu'aujourd'hui le M23 est à genoux et que ceux qui l'ont toujours soutenu devraient tirer des leçons en activant bien entendu cette autre option qui était préconisée par le président tanzanien et qui consiste à ce que les autres pays comme l'Ouganda et le Rwanda organisent eux aussi des dialogues entre leur peuple et avec leur rébellion pour pouvoir arriver à une solution durable en ce qui concerne la pacification de la région des Grands Lacs.
Merci. Jusqu'à Kousema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. L'approche utilisée, privilégiée par le chef de l'État Joseph Kabila dans cette crise a été efficace et serait même à la base de l'autodissolution du M23 en tant que mouvement rebelle et la fuite de Makenga en Ouganda, selon Ludor Balekelaï.
Oui, je voudrais tout d'abord rendre un hommage à nos forces armées. Certes, ce n'est pas la fin de la guerre, comme d'aucuns le pensent, mais c'est quand même un pas important qui a été franchi.
Donc, cela veut dire que l'approche utilisée par le gouvernement a été efficace.
On va parler de cette approche parce qu'il y a eu plusieurs approches. Et s'il y a une approche qui a donné ses fruits, ce serait peut-être l'approche diplomatique et non pas une approche militaire. Je voudrais démontrer ici que...
N'est-ce pas que tout est lié?
Oui, tout est lié, c'est vrai, mais ce qui a le plus pesé ici, ce ne sont pas des armes, comme on veut nous le faire penser. Ce ne sont pas les armes, c'est vrai que les FARDC ont fait un travail qui est à féliciter, mais on ne peut pas ne pas reconnaître l'action diplomatique, la pression diplomatique de la communauté internationale. Je m'en veux pour preuve ici la dernière déclaration du nouvel ambassadeur des États-Unis à Kinshasa, M. James Swan, qui a clairement dit que les États-Unis ont été pour beaucoup dans la pression. Quant à, pour revenir à votre question du départ, parler de cette reddition
de
Makenga et ses hommes, d'abord je voudrais dire ici, parce qu'il y a eu une polémique, a-t-il été arrêté ou il a fait une reddition, tué ou blessé, est-il au Rwanda, en Ouganda ou en RDC? La dernière déclaration du ministre porte-parole de l'Ouganda vient mettre un terme à cette polémique et élève un coin de voile sur cette fin de guerre assez étonnante. Est-ce que vous pouvez comprendre que Makenga et 1600 de ses hommes se rendent en Ouganda demain, alors que ce nombre correspond à peu près aux effectifs qu'on a toujours présenté de ce mouvement rebelle, au plus fort d'ailleurs de son régime lorsqu'ils ont occupé Goma. Donc ceci veut dire qu'en fait, il n'y a pas eu un affrontement réel en face. Ce sont des hommes qui ont abandonné armes et munitions et qui sont rentrés quelque part. C'est vrai que la pression diplomatique y est pour beaucoup. Mais ici, on ne devrait pas tomber dans un triomphalisme. Féliciter les FARDC, certes, mais aussi féliciter l'action diplomatique de la communauté internationale qui a pris à bras les corps pour exercer des pressions et lesquelles pressions ont fini par donner des résultats. Alors, les problèmes qui restent maintenant, c'est au niveau du gouvernement congolais. Vous pensez être en paix lorsque 1700, et les chiffres sont bien donnés, 1700 hommes sont à près de la frontière, parce que ce sont des pays frontaliers, sont à la frontière, mais ce sont des forces négatives qui peuvent à tout moment changer des stratégies et faire du mal comme le font les FDLR et toutes les forces négatives.
Voilà, là c'est parmi les défis à relever par le gouvernement congolais et on va évoquer ça dans la deuxième partie de cette émission. Magloire Paluku, vous êtes directeur général de la radio Kivu One, émettant depuis Goma au Nord Kivu, et maintenant là vous intervenez depuis Kampala en Ouganda. Le porte-parole du ministère de la Défense en Ouganda a affirmé que Makenga et ses hommes ne seront pas remis aux autorités congolaises.
Oui, effectivement. Mais d'abord, Guy, si vous permettez, il faut dire qu'entre le 3 et le 4 novembre, il y a donc quelques jours, le sultan Makenga avait pris la fuite vers le Rwanda avec lui, son lieutenant, le colonel Kayima Innocent. Alors, il a bifurqué pour revenir en Ouganda. C'est comme si le Rwanda et l'Ouganda se partagent les rebelles. Voilà, on ne peut pas avoir Kumba, on ne peut pas avoir
Mutibusi,
tout le monde là-bas, Taganda qui fuit avec toute la partie M23 du début vers le Rwanda. Il faut les partager vers ici, d'où ces chiffres assez fantaisistes de 1600 à 1700 personnes qui accompagnent Makenga. Alors, on ne peut pas le remettre, effectivement. Et c'est ça la question ici au dialogue de Kampala. Les délégués se disent, est-ce que l'Ouganda comprend que Sultani Makenga est sous sanction de la communauté internationale? On ne peut pas le remettre maintenant, puisque dans ce qui sera signé lundi, il y aura aussi la question de l'amnistie au cas par cas. Donc l'Ouganda est en train de jouer avec la grande cérémonie que nous attendons tous ici ce lundi, puisque Makenga n'est pas éligible pour entrer dans l'armée congolaise, mais dans ce qui sera déclaré ou signé ici, il pourrait y avoir une amnistie au cas par cas pour ceux qui sont éligibles. Voilà ce qui va jouer un tout petit peu avec ce jeu ougandais en ce moment.
Magloire Paluku, ne va-t-on pas assister au scénario Mutebusi avec Jules Mutebusi et Kunda, ces deux anciens officiers des FARDC qui s'étaient rendus au Rwanda après s'être rebellés contre le gouvernement congolais, et ils y sont jusqu'à aujourd'hui, toutes les démarches visant à obtenir leur extradition ayant échoué.
Oui, Guy Maté, c'est ce que je suis en train d'expliquer, que le jeu s'est joué entre le 3 et le 4 de novembre. Parce que quand Sultani Makenga, Innocent Kayina encore arrivent au Rwanda, ils ont dû négocier rapidement pour que ça ne pèse pas trop, que ça ne soit pas trop, parce que toute la clique des tagandistes qui sont restés, les Runiga et plusieurs hommes qui sont encore la première partie de M23 qui a fui, qui sont encore au Rwanda, ça sera un peu plus trop. Alors, ils se sont arrangés pour ramener le général Makenga ici et laisser le colonel Innocent Kaina au Rwanda et Makenga en Ouganda avec ses hommes. C'est pour ne pas revenir, ce que tu viens de, ce que vous venez de dire, Guy, pour avoir les trop pleins de réservoirs des rebelles congolais seulement vers le Rwanda. On les amène un peu comme un vase communicant ici en Ouganda. C'est un jeu absolument de partage et de responsabilité.
Magloire Paluku, par ailleurs, le gouvernement congolais pense qu'après la défaite du M23, il n'y a plus opportunité d'un accord avec ces mouvements qui n'existent plus. Il faut plutôt une déclaration pour conclure le pourparlers de Kampala. Votre analyse?
Ça fait 11 mois que je suis ici à Kampala et vous venez de lire la première partie du communiqué de Bertrand Bisimwa qui annonçait à l'opinion nationale internationale et déclarait qu'il mettait fin à la rébellion. Mais l'autre partie du communiqué que vient de citer entre autres Martin Kobler, le patron de la MONUSCO, dit qu'il faudra maintenant discuter pourquoi le M23 a été né. Et vous savez que une déclaration ne va pas terminer ce qui a été convoqué par les chefs d'État. Il est dit aussi dans ce communiqué qui a été confiné, préparé par pendant 4 jours par le ministre des Affaires étrangères de la RDC, qu'il y a maintenant le processus de démobilisation, désarmement, réinsertion, et tout ça c'est fait par ceux qui ont convoqué le dialogue, et c'est la CIRGL. C'est une question diplomatique internationale qui ne va pas aller peut-être seulement avec une déclaration, mais qui doit être absolument un accord, parce que tout le monde doit s'engager. Le M23 militaire est mort, la rébellion est morte, mais ce qui a poussé les gens et même Barack Obama à dire pourquoi les causes de la rébellion existent encore, d'où les discussions politiques qui vont pousser à un accord, sinon une déclaration serait encore trop schématique, un peu trop laconique pour terminer les causes de la naissance du 23.
Ludo Malikadaï, les deux parties, la délégation gouvernementale ainsi que la délégation du 23, estiment qu'il est nécessaire de retourner à Kampala, mais les uns pensent que c'est pour conclure un accord, hein, ça c'est le M23, et tandis que les autres estiment qu'une déclaration suffit pour conclure, c'est pour parler, ça c'est la délégation du gouvernement congolais. Comment vous analysez cette divergence de vues?
Merci, éminent confrère. Avec votre permission, je voudrais revenir très brièvement sur le point précédemment évoqué en ce qui concerne le refus du gouvernement ougandais d'extrader Sultani Makenga et ses hommes. Je voudrais rappeler ici à l'intention des auditeurs qu'il existe un pacte de non-agression signé par tous les pays de la CPGL qui oblige les pays membres d'extrader tous ceux qui auraient compromis la sécurité intérieure d'un ou l'autre membre donc de cette communauté. L'Ouganda, tout comme le Rwanda, ainsi que la République démocratique du Congo, sont liés par les dispositions de
cet accord national.
L'accord cadre oblige les États membres à ne pas offrir un quelconque asile à tous ceux qui seraient compromis dans ce sens-là. Et donc, l'Ouganda doit s'exécuter en rapport avec donc cet accord cadre, et nous estimons que la communauté internationale devrait évoluer aussi dans le même sens. En ce qui concerne la déclaration, moi je crois qu'on ne peut plus continuer à renfermer l'opinion nationale congolaise dans cette multimodalité langagière, déclaration, accord. En ce qui nous concerne, nous estimons que la meilleure des choses à faire, c'est d'aboutir à une déclaration, tout simplement parce que les Nations Unies elles-mêmes savent que la brigade spéciale qui était déployée au Congo, c'était pour traquer les forces négatives, dont le M23 qui est aujourd'hui défait, qui est aujourd'hui à genoux, et aujourd'hui demander à la République démocratique du Congo d'aller signer un accord avec une force négative qui n'existe plus réellement et militairement, je crois que c'est un non-sens et que le gouvernement de la République devrait ouvrir l'œil et le bon pour que la communauté internationale ne puisse pas nous emballer encore dans ce double langage, c'est qu'il y a une contradiction majeure et une autodestruction pragmatique.
Et vous pensez que par une simple déclaration, le gouvernement congolais pourra, n'est-ce pas, répondre aux revendications du M23?
Oui, parce qu'on ne peut pas dialoguer avec un cadavre. On ne peut pas dialoguer avec un cadavre, c'est un non-sens. Le M23 n'existe plus militairement. Ceux qui sont restés, il est prévu, bien entendu, des mécanismes d'analyse au cas par cas de ceux qui peuvent être éligibles pour la réintégration au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, ou ceux qui peuvent bénéficier bénéficier d'une quelconque amnistie au terme de la loi qui sera adoptée par le Parlement. Mais à l'étape actuelle, l'Ouganda est dans l'obligation, ainsi que le Rwanda, d'extrader tous ceux qui sont poursuivis par la justice nationale et internationale pour différents crimes dont ils se sont rendus responsables.
Vous avez dit, le M23 n'existe plus, c'est un cadavre, donc le gouvernement congolais
va signer, c'est pour prendre acte, c'est un certificat de décès. C'est ça que je voulais dire, pas un procès de métaphore. Le gouvernement congolais va signer un certificat de décès du M23. Merci. C'est ça.
Jusqu'à prochainement, accord ou déclaration, ce qui importe, est-ce les concepts ou plutôt les contenus dans ces documents? Pourquoi j'ai dit cela? C'est parce que même à travers une déclaration, on peut se faire mutuellement des concessions. Et je crois que c'est ce que évite le gouvernement congolais, faire des concessions au M23.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. On ne devrait pas plonger dans cet extrémisme, dans des considérations lexicales. On sait que c'est un exercice que le ministre Mende aime bien. Pour rappel ici, lorsque tout le monde a demandé un dialogue à Kinshasa, lui préfère parler de concertation. À Kampala, lorsqu'on parlait de négociations,
mais je crois que le ministre Mende n'est pas sur le plateau. C'est nous qui analysons la situation.
Ok, donc je ne voudrais pas tomber dans des considérations lexicales, parce qu'en fait, une déclaration, dès lors qu'elle est signée par deux parties, elle est un accord. C'est simple, donc c'est les contenus qui importent. Alors, le problème ici, c'est lesquels? Il est vrai qu'aujourd'hui, il est indécent de voir le gouvernement de la République prendre place en face d'un quelconque mouvement rebelle. Mais je voudrais vous dire ici, la déclaration peut être aussi une diversion. Ça peut être diversion parce que les hommes sont là, ils ne sont pas morts, ils ne se sont pas suicidés. On vient de faire les décomptes ici, on sait où ils sont. Et leurs responsables vivent encore, ils sont là. C'est peut-être là les côtés ratés de ce qu'on appelle fin de la guerre, entre guillemets, parce qu'il reste encore beaucoup à faire. Donc nous ne devons pas nous laisser ici nous endormir par cette simple déclaration de tel. Je crois qu'il reste encore beaucoup à faire à Kampala, ce qui est indécent. Donc, le problème, c'est peut-être les formats maintenant, parce qu'il faut, dialoguer, mais non pas avec le rebelle, mais avec tous ceux qui prennent part. Maintenant, on connaît les vrais commanditaires qui gardent aujourd'hui ce qu'on a appelé des marionnettes, en fait. Mais il y a des Congolais là-dedans. Donc, je crois qu'il y a, un vrai problème. Dès le départ, on avait déjà dénoncé ici l'accord cadre, parce qu'ils ont obtenu leur légitimité à partir de l'accord cadre. Et le M23, c'est peut-être le seul mouvement armé qui est nommément cité comme partie prenante. Donc, à partir du moment où le gouvernement s'était assis à la même table avec le M23, c'était déjà un échec. Nous l'avions dénoncé ici. Personne ne nous a cru. Donc, aujourd'hui, la pilule est amère. Malheureusement, c'est le prix à payer. Le gouvernement ne doit pas s'imposer dans les triomphalismes. Il sait que cette victoire, on l'a obtenue grâce et surtout à l'appui international sur le plan diplomatique et même sur le plan militaire, parce que la force des Nations Unies était là, les Nations Unies qui luttaient aussi pour leur propre survie. Donc, qu'on l'appelle accord ou déclaration, ou peut-être qu'on trouvera un autre terme, le plus important, dès qu'un papier est signé par deux parties, parce que si l'on s'en tient au propos du ministre Mende, donc on va aller signer une déclaration de la mort du M23. Donc, le ministre veut nous faire comprendre aujourd'hui que le gouvernement, ou lui, fait partie des fondateurs du M23, parce que la déclaration de la mort a déjà été faite.
Permettez-moi de placer.
Une déclaration étudiée latérale.
Je place un petit mot.
Dès lors qu'il y a deux parties en face, c'est
bien
la.
Je voudrais placer un petit mot.
Oui,
Un petit mot. J'ai un petit souci. C'est l'amalgame que mon confrère fait sur ce plateau. Je n'arrive pas à m'imaginer son interlocuteur dans ce studio. Est-ce que c'est le ministre Mende ou c'est Louis-Dor Balekelaï et Magloire Palkou qui est à Kampala? Il dit des choses, il se contredit en même temps. Aussitôt, il dit que c'est l'option diplomatique qui a le plus joué. En même temps, il reconnaît qu'il y a eu la victoire militaire des FRDC. Il dit les Nations Unies. Mais les Nations Unies, à l'étape de Kibumba, la brigade est intervenue après que les FRDC aient lancé l'assaut contre les forces négatives. Et je me rappelle même le même jour, M. Martin Kobler a appelé le gouvernement et le M23 à rentrer à Kampala pour le dialogue. C'est pour dire que la brigade a joué sa partition pour justement crédibiliser la MONUSCO qui n'était plus bien perçue en République démocratique du Congo à cause de sa passivité. Donc il faut reconnaître quand même que les forces armées de la République démocratique du Congo ont fait un travail de titan qu'il faut reconnaître avec patriotisme au-delà de ce que nous pouvons faire.
Il ne faut pas minimiser l'apport de la brigade d'intervention dans ces combats, dans ces victoires.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit qu'ils sont intervenus après que les FARDC aient lancé l'attaque, l'assaut au niveau de Kibumba. Mais au départ, ce n'était pas l'option ni des Nations Unies, ni de la MONUSCO non plus.
Merci. Après la victoire des FARDC sur le M23, la société civile du Nord Kivu, le parti politique Union pour la Nation Congolaise, UNC en sigle, et le Conseil provincial de la jeunesse pensent que l'armée doit rester vigilante pour contrecarrer toute action de nature à déstabiliser la région des Rutshuru. Gisèle Cage pour les détails.
Même si la victoire des FARDC sur le M23 est déjà prouvée, les forces armées nationales congolaises doivent rester vigilantes. Thomas Dakamwiti, président de la société civile du Nord Kivu, justifie cette position par le fait que les combattants du M23 tenteraient de se réorganiser à partir des territoires voisins.
Il y a le général rwandais qui est en train de se réorganiser avec plus ou moins 300 militaires aguerris de l'armée rwandaise. Tous ces éléments-là nous poussent à ne pas tellement chanter la victoire, mais plutôt interpeller les uns les autres pour que nos FARDC ne soient pas distraits. Et donc, nos vaillants combattants doivent continuer à rester vigilants. Nous sommes en train d'aller de victoire en victoire, mais il reste plusieurs défis à relever, notamment avec les autres groupes armés étrangers et les groupes armés nationaux.
La coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu appelle lui aussi le gouvernement congolais à prendre des mesures idoines pour garantir la sécurité sur l'ensemble du territoire du Nord Kivu. Pour sa part, le Conseil provincial de la jeunesse du Nord Kivu exhorte le gouvernement provincial à rester vigilant et concentrer ses efforts sur les activités de sécurité et de renseignement dans les zones libérées. Goma, Gisèle Cage, Radio Okapi.
Magloire Paloukou, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio Kivu One, émettant depuis Goma au Nord Kivu, mais là vous intervenez depuis Kampala à Ouganda. Maintenant que le M23 est défait, peut-on penser que c'est la fin de l'instabilité dans cette partie du pays?
Bien, effectivement, la question est très bien posée, Guy Maté, mais je dois revenir sur, permettez-moi quelques secondes,
je vous en prie.
Sur la question des déclarations, merci beaucoup, sur la question des déclarations ou d'accord. N'oubliez pas que le dialogue a été convoqué sur plusieurs recommandations et convoqué par la communauté internationale. C'est la CIRGL, ici c'est le président de la CIRGL qui convoque. Ce n'est pas le gouvernement congolais qui décide de ce qui va être comme conclusion. Le gouvernement congolais plutôt participe. Or, vous n'oubliez pas qu'il y a 11 points qui sont dans l'accord qui était préparé déjà à Kampala. Même si le M23 est militairement mort, mais il y aura un président politique du M23 qui sera là et qui doit signer cet accord. Alors, il y a ces 11 points, les questions politiques, les questions sociales, la gouvernance, la sécurité. Tout ça est résumé dans ces 11 points qui devront être considérés. Nous attendons que le facilitateur, donc le ministre ougandais de la Défense, par son président, le président de la CIRGL, le président Yoweri Museveni, donne le format comme vous l'avez discuté. Alors, est-ce que c'est la fin de, pour revenir à votre question,
l'instabilité?
Non. Non, non, non. Martin Kobler a dit, vous qui êtes très placé pour comprendre, qu'il y a d'autres groupes armés qui doivent absolument terminer. Il y a l'FDLR, il y a l'ADFNALU, il y a même le M23 lui-même, qui, les résidus qui peuvent saboter, il faut sécuriser, il faut restaurer l'autorité de l'État maintenant. Avant de quitter Goma, j'ai reçu des appels de certains groupes armés qui se disaient, ah nous on a aussi peur d'être frappés comme le M23. La brigade d'intervention ne va pas terminer lundi avec le dialogue de Kampala. La brigade va continuer maintenant pour nettoyer ce groupe résiduel de Maïmaïtel, de Cheikh Oline, et pour qu'il y ait maintenant l'autorité rétablie dans l'est du pays. Vous savez, il est même dit, pour terminer par là, que l'est du Congo doit être déclaré zone sinistrée. L'Ituri, le nord et le sud, Kivu, le sud Katanga doivent être déclarés zone sinistrée pour qu'on commence maintenant la période de restauration de l'autorité de l'État. Je pense que le chemin à suivre est maintenant long et c'est un bon chemin qu'il faut suivre à partir de la semaine prochaine.
Louis-Dor Balguela, je rappelle que vous êtes éditeur du journal Le Pouvoir du Peuple et journaliste à la radio-télévision nationale congolaise RTNC en sigle. Le 1-23 défait, mais ces revendications sont encore là, on n'y a pas encore répondu.
Oui, je ne voudrais pas prendre le risque de partager le point de vue de mon éminent confrère Magloire Paloukou qui dit que c'est la CIRGL, c'est la communauté internationale qui ont convoqué les pourparlers de Kampala et que le gouvernement congolais n'a pas à venir imposer ce qu'il veut. Non, moi je crois que ce n'est pas parce que c'est la CIRGL que le gouvernement congolais doit renoncer à sa souveraineté lorsque la victoire est évidente, lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies, pas plus tard qu'hier, a reconnu et a rendu hommage aux forces armées de la République démocratique du Congo avec l'appui. Et quand on dit avec l'appui, la nuance est détail pour répondre à votre préoccupation, vous qui me demandez de ne pas sous-estimer l'apport de la brigade, c'est avec l'appui, ça veut dire que c'était d'abord les phares d'essai, mais avec l'appui. Donc cet hommage montre à suffisance que le gouvernement congolais est dans une position de force, que voilà. Le rapport de force n'est pas le même, et que donc la notion d'accord est vidée de tout son contenu.
Voilà,
les
23 est défait, oui, mais ces revendications sont encore là.
Les revendications ont été rencontrés par le gouvernement pendant autant de mois que ces pourparlers ont duré à Kampala et je crois qu'il ne restait plus que la médiation fasse son rôle, mais comme il y avait ce jeu de ping-pong et le gouvernement a joué à la prudence pour sauvegarder l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo sans se compromettre.
Giscard Koussema, je rappelle que vous êtes directeur général de la radio-télévision Canal Futur. La complexité de cette question ne réside-t-elle pas finalement dans les mêmes revendications qui semblent ne pas être clairement définies. L'on parle de la réintégration dans des éléments du M23 dans les FRDC, mais dans une lettre adressée au président ougandais il y a de cela quelques semaines par Bertrand Bisimwa qui est le président du M23, il est dit que les combattants du M23 n'ont pas pour vocation à servir sous les drapeaux et que s'ils ont pris les armes, ils sont devenus soldats, c'est par nécessité sécuritaire. Et ce sont des citoyens qui se battaient pour sécuriser leur milieu d'origine et pour le retour de leurs parents réfugiés depuis plus de 20 ans dans les pays voisins.
Écoutez, je voudrais d'abord partager ici le point de vue de mon confrère Magloire Paloukou pour dire avec les termes que vous venez vous-même d'utiliser ici, le problème est complexe. Réduire tout le problème de conflit de l'Est du pays à une simple avancée militaire serait purement irrationnel. Pourquoi je l'ai dit? Lorsque vous prenez, vous faites la compilation des déclarations de M. Kobler, de l'ambassadeur américain James ou encore de l'émissaire du président Obama, ils sont clairs là-dessus pour dire qu'on ne devrait pas s'enivrer dans la victoire militaire. Sinon, avec cet extrémisme que le gouvernement est en train de nous livrer, ils créent eux-mêmes les conditions pour la naissance d'une nouvelle rébellion parce que tout part désaccord avec... Peut-être je comprends pourquoi on veut éviter les termes
accord. Mais aussi...
Sinon, le mouvement prendrait sa naissance à partir de ces termes-là, comme on l'a vu avec l'M23. Mais le plus important ici, qu'il y a... Le problème, il est complexe et tout ne se limite pas qu'à un problème sécuritaire. Magloire a bien détaillé ici qu'il y a 11 points et tous ces 11 points ne sont pas forcément liés à des questions sécuritaires. Il y a des problèmes de gouvernance là-dessus, il y a des problèmes politique, de problèmes sociaux, tout le monde de la communauté internationale s'accorde à dire qu'il faut, et même le chef de l'État, ce qui est curieux, le chef de l'État lui-même l'a dit, que la victoire militaire ne devrait pas mettre un terme à toutes les autres options
Mais le caractère complexe aussi des revendications du M23,
oui.
À un moment donné, ils demandent d'être réintégrés au sein des FARDC, après ils disent, nous n'avons pas vocation à servir cette armée qui est désorganisée, et si nous sommes devenus combattants, c'est par nécessité sécuritaire, c'est parce que nous devions, n'est-ce pas, protéger nos territoires, nous devions nous battre pour les retours de nos parents qui étaient réfugiés à l'étranger. Comment peut-on répondre, n'est-ce pas, à ces gens de revendications?
Justement, la meilleure façon de répondre, c'est de parler avec ces gens et vider leur contenu, parce qu'on sait que le cahier des charges changeait au gré des vagues et selon les rapports des forces. On se rappelle quand ils ont pris Goma, ils ont pris d'autres revendications et maintenant qu'ils sont militairement sur un point de faiblesse, ils devraient prendre. Mais donc, les problèmes, ils restent, il est complexe, c'est vrai, il ne se limite pas qu'à cela. Et là, je salue la clairvoyance de la société civile du Nord Kivu et même les autres partis politiques de l'opposition qui pensent que les problèmes sont clairs maintenant. Il faut un vrai dialogue, il faut élargir les champs, ne pas laisser le gouvernement et le M23 pour évoquer ces genres de problèmes parce que vous le savez, en concertation nationale, la question sécuritaire avait été presque minimisée, vous le savez, pour intégrer les mouvements rebelles, il a fallu qu'il y ait des marches et ils ont participé aux deux derniers jours. Donc, la solution, elle est claire maintenant, on devrait, c'est le vrai moment pour qu'il y ait un vrai dialogue. Toutes les parties prenantes, au plan interne et même au plan externe, parce qu'il y a 1700 hommes qui sont au-delà de nos frontières, ils ne devraient pas constituer un danger permanent pour la paix en République démocratique du Congo.
Merci, c'est la fin de cette émission. Jean-Noël Mokondo était à la technique et Alain Hurung à la réalisation sous la supervision de Martin Sebou-Djangwe. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Okapi.